La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Chaque jour, on met en avant toutes ceux et toutes celles qui font bouger la France. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Carole Ferry, bonjour à tous. Alors dans quelle poubelle mettre tel ou tel déchet? Je suis certain qu'à la maison, vous êtes tous une fois au moins posé cette question. Alors comment faire en sorte que l'on trie mieux pour offrir une seconde vie à nos déchets? Autant de questions à la une aujourd'hui. Notre invité jusqu'à 14h sur Europe 1, Jean Ornain, le directeur général de Citeo. Citeo, c'est le spécialiste notamment du recyclage des emballages ménagers.
À la une en effet, Emmanuel, la gestion de nos déchets. Vous vous demandez peut-être parfois aussi où est le conteneur le plus proche de chez vous? Quelle quantité de CO2 vous économisez en triant bien vos déchets? Eh bien, on a trouvé une application pour vous, c'est Montri. Son fondateur sera avec nous dans un instant.
C'est un des grands noms de la gestion des déchets en France. Paprec, vous voyez sûrement leur camion bleu sillonner les rues de France. C'est une famille qui se cache derrière et qui a fondé en seulement quelques années ce géant. Ce sera notre saga à 13h30.
Et bien sûr, les trophées Europe 1. Chaque jour, un entrepreneur, une entrepreneuse qui vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, nous avons retenu Tatapi. Ce sont des tapis d'éveil éco-responsables et made in France pour les petits.
En fin d'émission, comme chaque jour, demain au travail, tiens, est-ce que votre entreprise vous verse de l'intéressement? Une petite PME vient de se lancer. Elle nous dira pourquoi elle a décidé de mieux associer ses salariés à la réussite de l'entreprise.
Bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Alors la France bouge, hein, ce sont toutes ces entreprises, petites et grandes, qui innovent et font tourner la France. Il y a bien un secteur où nous sommes en pointe, même numéro un au monde. Eh bien, c'est la gestion de nos déchets.
Jean Ornain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Citeo. Citeo est né en 2017 de la fusion d'éco-emballage et d'éco-folio. Votre mission, c'est d'organiser, de piloter, de développer le recyclage des emballages et des papiers en France. Alors Jean Ornain, on est souvent un peu perdu face à notre poubelle. Hein. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent là, nous voient tous en face de leur poubelle. Est-ce que vous pouvez nous aider à en savoir un peu plus sur ce qu'on jette dans la poubelle de tri?
Oui, bien sûr. Alors déjà, peut-être il faut rappeler que quand vous achetez un produit qui est emballé, l'entreprise qui a commercialisé ce produit a la responsabilité de la fin de vie de l'emballage. Et donc, c'est elle qui va contribuer à chaque fois qu'elle vend une bouteille, un paquet de biscuits ou autre, qui va payer. Et en l'occurrence, cet argent va venir chez Citeo. Et avec cet argent, on va développer ce qu'on appelle de l'éco-conception, de la mobilisation des Français, et ensuite payer le bac de tri que vous avez chez vous, dans votre rue. Donc, en gros, ce sont les entreprises qui, pour l'essentiel, financent la collecte et le tri des déchets.
Elles payent,
donc ça,
mais elles n'ont pas toujours des produits recyclables.
Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre bac de tri, qui est souvent jaune, mais pas toujours en France? Vous allez mettre tous vos emballages en carton, tous vos emballages en métal, donc à la fois l'acier et l'aluminium.
Ça veut dire la boîte de thon.
La boîte de thon, la boîte de conserve, la boîte
aluminium.
De sardines, le papier d'aluminium, essayez de le mettre en boule, votre aérosol de déodorant par exemple. Et puis ensuite, sur les plastiques, c'est là que ça se complexifie un tout petit peu. Sur les plastiques, il y a 50% de la France pour l'instant, on met que les bouteilles et les flacons. Et bouteilles de shampoing, flacons de
tous
les flacons
en
plastique, tout ce qui a un bouchon en plastique, vos bouteilles d'eau en plastique, vos bouteilles de soda en plastique. Et on est en train, au fur et à mesure, la France, de dire aux Français, maintenant, vous allez pouvoir mettre aussi vos pots de yaourt, aussi vos barquettes de jambon, aussi vos fils. C'est un programme qui va jusqu'en 2023 parce que derrière, il faut moderniser les centres de tri parce qu'il faut trier tous les plastiques. Et je terminerai avec le verre, pardonnez-moi, qui était le premier qu'on a trié. Le verre, en général, sur toute la France, a des bacs de collecte séparés. Vous mettez toutes vos bouteilles, vos bocaux, tous les bocaux en verre, dans le bac de collecte du verre.
Et une autre question qui est toujours très importante, on n'est pas toujours obligé de tous les nettoyer. Vous parliez par exemple des yaourts, on n'est pas obligé de laver notre yaourt avant de le mettre dans notre poubelle de tri.
Mais les yaourts en plastique, pour l'instant, on ne le met pas dans la poubelle de tri.
Ça dépend,
ça dépend de là
où vous êtes. Et d'ici à 2023, oui, vous mettrez partout en France vos pots de yaourt. Là, aujourd'hui, vous allez sur le guide du tri et puis vous allez pouvoir constater. Vous avez raison, il ne faut pas faire la vaisselle avant de mettre ces emballages. Vous pouvez mettre des emballages qui ont encore des restes de contenu dans le bac de tri.
Alors là, on vient le voir, hein, il a fallu 1 minute 30 pour que vous nous expliquiez tout ça. C'est très compliqué. Pourquoi c'est encore si compliqué? Parce que, question toute bête, quand vous dites pas partout en France, pourquoi on n'uniformise pas la gestion du tri? Pourquoi c'est pas plus simple, tout simplement?
Alors vous avez deux sujets. Le premier, c'est que sur les résines plastiques, on est en train, à travers l'éco-conception et la recherche et développement, de créer les filières de recyclage des résines, parce qu'il y a plein de résines plastiques, des résines plastiques qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude de trier. Donc en fait, c'est ça qui prend un petit peu de temps pour arriver à simplifier le geste de tri pour les Français. Après, vous avez un deuxième élément, c'est qu'en France, les collectivités territoriales sont libres de la couleur du bac de tri. Et donc parfois, on va se retrouver dans une région en Vendée, on va trier d'une certaine façon, on va après aller en Haute-Savoie, ce serait encore une autre façon, avec une autre couleur de poubelle. Ceci est en train d'être aussi réglé, parce que la France a un programme d'harmonisation. Dans les 5 ans qui viennent, je pense qu'on aura des bacs de tri qui sont tous de la même couleur. Mais les collectivités sont libres de ce point de vue-là.
Est-ce que les Français trient bien aujourd'hui ?
À 90%, les Français trient leurs emballages et leurs papiers. Après, ceux qui trient tous les jours, et quel que soit l'endroit où ils se trouvent, il y en a 1 sur 2.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les jeunes ont de plus en plus une conscience écologique, mais je crois que dans toutes les enquêtes que vous faites, ce ne sont pas ceux qui trient le mieux, mais ce n'est pas de leur faute, j'ai envie de dire. Parce que souvent, notamment dans les grandes métropoles, ils habitent dans de toutes petites surfaces, non pas les différentes poubelles. Ça se vérifie, ça s'améliore, c'est ça l'idée ?
Alors c'est exact, c'est-à-dire que les plus jeunes ont une bonne conscience environnementale. Alors, moi je le dis souvent, ils veulent sauver la planète mais ils ne veulent pas descendre la poubelle. C'est qu'ils ont plus de mal à trier pour des raisons, vous avez raison, d'habitat, le studio, pour des raisons aussi de mode de consommation nomade. On consomme dans la rue, etc. Et là il y a moins de dispositifs de tri dans les rues que dans les domiciles.
Ou pas toujours bien expliqué.
Et c'est pas toujours totalement bien expliqué. Mais au global, on voit que tout ça est en train d'avancer. Alors, c'est vrai que les meilleurs trieurs sont les gens qui ont une maison individuelle, un jardin, un bac. Ils ont entre 50 et 60 ans. Voilà. Et donc, mais les jeunes, ils viennent bien évidemment.
Mais typiquement, pour ceux qui habitent dans de petites surfaces, pour ceux qui habitent dans les grandes villes, est-ce que les municipalités ne doivent pas aussi un peu plus aider ? On voit depuis quelques années maintenant des conteneurs, des bacs fleurir un petit peu partout dans les villes, mais c'est encore limité. Est-ce que vous les appelez aujourd'hui à développer le tri ?
Ah oui, parce qu'en fait, le sujet pour nous, c'est la ville. On consomme 2 fois plus en ville et celle-là, on trie beaucoup moins. Donc en fait, nous, on a des programmes concrets. Donc on aide les collectivités. À Paris, on a un programme qui s'appelle Trilib. À Marseille, on a installé des bacs de collecte sur les plages urbaines, aux Catalans, etc., pour développer la collecte. À Besançon, on fait la même chose. À Strasbourg, on a même fait décorer les bacs de tri du verre par des artistes. Et en fait, c'est vrai, vous avez raison, la poubelle ou le bac ne se cache plus. Aujourd'hui, ce n'est plus des déchets, ce sont nos ressources du futur et il faut les assumer, nous les mettre devant le nez et que le geste de tri devienne un réflexe au quotidien, qu'on soit à la maison ou qu'on soit dans la rue.
Jean Ornain, directeur général de Citeo, vous restez avec nous.
Europe 1. Et il est tout juste 13h18 sur Europe 1.
Une application à suivre pour mesurer notre impact sur l'environnement et puis surtout pour mieux agir.
Et oui, ça s'appelle C'est mon tri et son fondateur est avec nous également dans un instant sur Europe 1.
La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Alors, la France bouge. On parle aujourd'hui de la gestion de nos déchets. Notre invité, c'est Jean Ornain, le directeur général de Citeo, un des principaux acteurs du recyclage en France.
Et on est aussi avec Clément Castelli. Vous êtes le fondateur de User. Bonjour.
Bonjour.
User est né en 2014. Vous développez des applications, notamment pour améliorer notre manière de trier. Vous avez lancé notamment Mon Tri et l'un des objectifs de cette application, c'est de mesurer l'impact environnemental et solidaire de notre tri. En fait, c'est quoi ? C'est une manière de nous faire prendre conscience de comment on trie au quotidien, de nos bons gestes ou pas ?
Alors oui, Mon Tri, en fait, son objectif, c'est vraiment d'être la boîte à outils déchets pour les particuliers. C'est l'interface par laquelle, en fait, la collectivité va mettre à disposition de ses usagers ces différents services, les différentes informations relatives aux déchets. Elle va intégrer 4 grandes fonctionnalités. La première, c'est le guide du tri. Comment bien trier en fonction des règles de ma ville.
Et justement, pour ça, on scanne nos produits. Vous avez besoin de nous, quand même. Il faut qu'on travaille pour vous, pour que vous sachiez exactement ce qu'on a à la maison dans nos placards.
Exactement. Vous avez 2 manières de faire. Vous scannez le code barre de l'emballage, et là, l'application vous dit comment trier chaque composant en fonction des règles de votre ville. Et pour les autres déchets, vous avez un moteur de recherche et vous tapez écran de télé, ampoule et autres. Et on va vous dire également comment les trier. Et on fait le lien aussi avec une carte où on va vous indiquer où vous allez pouvoir aller déposer chaque type de déchets, qu'il s'agisse de déchets électroniques, d'emballages recyclables, de déchets de jardin, etc.
Les ampoules, par exemple, si on se dit où est-ce que je peux les jeter le plus près de chez moi ? Est-ce que c'est dans tel magasin ? Est-ce qu'il y a un truc de recyclage ? Ça, on me l'indique ?
Exactement. Et en fait, on va même aller plus loin parce qu'on va essayer de sourcer, de référencer tout le maillage local, toutes les initiatives locales en termes de revalorisation, de recyclage. Donc en fait, et ça, c'est la collectivité qui va alimenter l'application avec ses propres informations.
L'idée, en revanche, pour ceux-là qui sont en train de nous écouter à la maison ou dans leur voiture, c'est « Ah bah tiens, c'est pratique, je vais tout de suite sur mon tri ». Petite précision quand même, il faut que vous ayez vous signé un deal avec la collectivité et ça ne marche que dans ce cadre-là. Hein. Oui.
Alors, il y a une version gratuite de l'application qui est accessible à toutes.
Mais pour l'avoir testé, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités.
Alors en fait, il n'y a que le guide du tri.
Voilà.
Parce que ce sont des informations que nous, on peut fournir. Et il n'y a pas la carte des points de collecte, il n'y a pas le calendrier de collecte avec tout le service d'alerte en cas de perturbation de service.
Dans les villes où vous n'avez rien signé.
Dans les villes où nous n'avons rien signé. Par contre, quand une ville souscrit à l'application, c'est un abonnement, elle va pouvoir mettre à disposition là tous ses services et toutes ses informations auprès des usagers.
Et donc, vous avez combien de villes aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, avec Citeo, on a lancé une première ville expérimentale, donc c'est à Nice, avec la métropole de Nice, où on a déployé cette application en complément d'un dispositif dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que ce serait trop long, mais qui vise à inciter les gens à rapporter leurs emballages recyclables dans des points de collecte en ville.
Oui, parce que là, c'est intéressant, parce qu'on gagne d'une certaine manière, si on fait ça, on gagne des points solidaires derrière et on est récompensé pour le geste de tri que l'on fait dans cette expérimentation.
Exactement. L'idée, c'était vraiment d'apporter, au-delà de l'envie citoyenne de bien trier ses déchets, d'apporter une motivation supplémentaire et donc de doubler l'impact en fait, du tri en permettant aux usagers de contribuer à une cause solidaire, en l'occurrence les Restos du Cœur.
Vous commencez à avoir un petit recul hein, maintenant. Est-ce que ça améliore la qualité du tri ?
Alors, il faut prendre les résultats que la collectivité nous a communiqués avec des pincettes, parce que c'est une expérimentation qui a démarré il y a un an. Aujourd'hui, ce qu'on a pu mesurer à partir des données qui nous ont été transmises par les collectivités, c'est que le pourcentage, en tout cas la quantité de déchets, avait augmenté d'en moyenne 30% sur les bornes qui avaient été équipées avec les boîtiers. Mais c'est des choses qu'on doit confirmer, évidemment, avec le temps.
J'aimerais revenir sur ces points solidaires. C'est plus on va scanner pour voir dans quelle poubelle on met, plus on a de points solidaires et qui sont ensuite... Il y a de l'argent reversé au Resto du Cœur. Ça marche comment, très concrètement ?
Alors, très concrètement, c'est quand l'usager va devant un point de collecte en ville, au moment de déposer son déchet, il le scanne et là, il contribue. Un emballage déposé égale un centime de contribution.
Jean-Ornain, je rappelle que vous êtes le directeur général de Citeo. On voit que le numérique, plus que jamais, est une aide aujourd'hui pour nous aider à mieux trier nos déchets. Vous le vérifiez aussi plus généralement, et là, à l'échelle de la France, pour Citeo, chez vous ?
Oui, à plusieurs égards, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on recycle 70% de nos emballages ménagers et 60% de nos papiers. Alors, c'est bien, parce qu'on a beaucoup évolué, mais enfin, nous, on veut aller à 100% recyclable ou réemployable. Et du coup, un des leviers, c'est de collecter plus. Et pour collecter, on l'a dit tout à l'heure, il faut simplifier, parce que je pense qu'effectivement, on trouve que c'est parfois compliqué. Il faut informer et après, il faut inciter. Et en fait, l'incitation du trieur, là en l'occurrence, que vient d'expliquer Clément, est un élément essentiel pour que finalement, il se dise, si je vais trier mon emballage, en plus, je vais peut-être contribuer au Resto du Cœur. On l'a fait historiquement, d'ailleurs, avec le verre, hein. Avec la Ligue contre le cancer, etc., où finalement, sur des tonnes de verres qui sont triés, à chaque fois, la collectivité va reverser
la Ligue contre le cancer. Vous travaillez, vous aussi, Citeo, sur des solutions de ce genre-là ?
Oui, parce qu'en fait, notre objectif à nous, c'est 100% recyclage ou réemploi. Donc en fait, c'est de réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers. Et donc, tout ce qui va être levier pour faire ça sera utile. Et donc, on soutient des start-up, des entreprises. On a un concours, d'ailleurs, de start-up auquel a participé... Clément, et qui a été lauréat, pour pouvoir avoir de l'innovation, et l'innovation numérique en particulier.
Mais ce qu'on entend dans ce genre de solution, c'est une sorte de personnalisation de son tri. On est responsable de son propre tri, et je crois que ce qui marche dans les solutions que vous appliquez, vous, c'est le fait que finalement, on paye pour véritablement ce qu'on consomme. On a une taxe personnalisée pour nos poubelles.
Alors, d'une façon générale, quand vous payez vos ordures ménagères, vous avez quelque chose qui est sur votre taxe foncière, qui s'appelle la taxe sur les ordures ménagères. Mais là, elle ne dépend pas du tout de votre mode de consommation ou de votre consommation de déchets. Sauf dans certaines régions, et c'est un très bon système, qui s'appelle la tarification incitative. C'est-à-dire, plus vous sortez votre poubelle d'ordures ménagères, plus vous allez payer. Et donc, les gens ont tendance à gérer leur consommation d'ordures ménagères et donc à faire baisser leurs ordures ménagères et à développer le tri parce que le bac jaune, il est principalement payé par les entreprises.
Merci Clément Castelli, fondateur de User. Jean-Ornain, directeur général de Citeo, vous restez avec nous. On parle jusqu'à 14h de la gestion de nos déchets.
Europe 1.
Et vous êtes sur Europe 1, 13h27.
C'est un des grands noms de la gestion des déchets en France, Paprec. Vous voyez sûrement leur camion bleu dans les rues de France.
Et oui, tout ça, c'est une famille qui est derrière et une famille qui a créé tout cela en seulement quelques années. Paprec, notre saga du jour. Dans un instant, dans La France bouge.
Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. Emmanuel Dutheil.
Et avec Carole, on est vraiment ravis d'être avec vous dans La France bouge jusqu'à 14h. Aujourd'hui, on parle du tri de nos déchets avec Jean Ornain, le directeur général de Citeo. Depuis plusieurs minutes, on parle notamment du rôle des municipalités dans la gestion des déchets. Le fait que des maires verts arrivent dans des grandes métropoles, Bordeaux, Lyon, on ne va pas toutes les citer. Est-ce que d'après vous, ça va accélérer notre capacité à mieux gérer nos déchets? Est-ce que vous voyez de la part de ces municipalités des envies nouvelles?
Oui, je pense que le sujet de la gestion des déchets, ou en fait le fait d'en faire des ressources et que ce ne soit plus des déchets, est un sujet qui est arrivé sur le dessus de l'agenda pour pas mal d'acteurs politiques. Et on espère, nous, qu'avec ces nouveaux élus, on va pouvoir dynamiser encore les programmes. Notamment, on a parlé tout à l'heure de tout ce qui est collecte hors foyer, qui sont des enjeux à la fois de recyclage et aussi de propreté urbaine. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, les entreprises portent une responsabilité et elles financent. Donc, on génère 800 millions d'euros chaque année. 90% sont versés aux collectivités pour qu'elles développent des systèmes de collecte efficaces. Et on compte vraiment sur eux pour dynamiser, et je l'ai dit tout à l'heure, arriver au 100%.
Alors, de façon très concrète, on dit souvent que la somme de déchets collectés est un bon indicateur de la santé économique du pays. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Alors, les déchets collectés en France, en tout cas les déchets d'emballage ménager, progressent relativement peu. On a en gros une certaine stabilité, que ce soit sur le plastique. On a connu une croissance du verre ces dernières années avec le développement de la consommation de la bière. Mais au global, en emballage ménager en papier, c'est stable. Le papier graphique, celui que vous utilisez là, en revanche, lui baisse considérablement parce qu'il y a moins de journaux. Les gens utilisent moins de papier au bureau, il y a moins d'imprimés publicitaires, donc le papier lui a tendance à baisser.
Est-ce qu'on est des mauvais élèves? On imprime encore la totalité de nos feuilles pour préparer ces émissions, mais on va essayer de s'améliorer un peu quand même.
Ce n'est pas forcément un défaut. Le papier est une ressource qui peut être gérée durablement à partir de fibres recyclées et qui peut être tout à fait
Mais c'est vrai qu'on pourrait sûrement faire tous collectivement un petit peu mieux là-dessus. Justement, collectivement, est-ce que pendant le confinement, on s'est relâché sur le tri? Ou est-ce que vous avez vu des évolutions de comportement pendant le confinement en la matière?
Alors, pendant le confinement, ce qui s'est passé, c'est que certains centres de tri en France, il y a 170 centres de tri qui trient vos emballages et vos papiers quand ils sortent du bac de tri. Et on a connu la fermeture d'à peu près 40% des centres de tri. Donc, vous avez pu voir parfois certaines collectivités qui ont remélangé les emballages avec les ordures ménagères. Mais c'était vraiment ponctuel. Après, sur le plan de votre comportement à vous, trieur, en fait, on n'a pas vu ça du tout. Et on a fait une enquête juste après le confinement. Et en fait, tout le monde a dit, ah ben en fait, je suis plus conscient, je vais faire plus attention à la fois à ma consommation, aux gestes de tri. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, une montée encore plus importante de la conscience environnementale des gens a fait que finalement, cette conscience que ce geste-là, ce petit geste au quotidien, peut être un geste très utile pour la planète.
On est devenu meilleur élève, finalement.
Oui, je pense que finalement, tout ça nous a peut-être fait réfléchir et on s'améliore.
Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans notre poubelle de tri. On l'a bien compris, le plus compliqué, c'est quand même autour du plastique. On est dans une ville où on trie le plastique ou pas, mieux ou moins bien, bref. Il y a encore certains plastiques qui restent difficiles à transformer, à recycler. Et puis, il y a aussi le fait que quand on a recyclé ce plastique, il n'est pas toujours facile à revendre parce que ça coûte parfois plus cher encore de proposer du plastique recyclé.
Exact. Le carton, le verre, l'acier, l'aluminium, le papier sont 100% recyclables. Pour les plastiques, dans vos emballages ménagers, il faut savoir que pour la moitié, donc vos bouteilles, vos flacons, il y a des solutions de recyclage technologiquement très bonnes. Et il y a des gens qui rachètent, par exemple, si vous prenez votre bouteille d'eau, en fait, qui rachètent pour refaire de la bouteille. Et eux, ils veulent intégrer de la matière recyclée dans leurs emballages. Après, vous avez 50% des plastiques, pots de yaourt, paquets de chips, films, pour lesquels il y a encore de la recherche et développement en cours, donc c'est sur le plan technologique. Et après, il faut que des gens rachètent, vous l'avez dit, et ces secteurs sont parfois l'automobile, le bâtiment, des secteurs qui sont en difficulté.
Est-ce qu'il faut que nous aussi, on apprenne peut-être à payer certains produits un tout petit peu plus cher pour aider la filière, ou c'est aux industriels de faire un peu plus d'efforts et de rogner les marges?
je vais presque dire...
Vous n'allez pas
les
vous fâcher avec vos financeurs.
Mais... Non, non, les deux. Ben non, pour les industriels, de toute façon, chaque année, ils payent de plus en plus. Parce que plus on recycle, plus ça coûte de l'argent. Et donc, les industriels paient chaque année 9 à 10% supplémentaires par rapport à l'année précédente. Après, je pense que c'est une responsabilité partagée. Les industriels ont la responsabilité sur l'éco-conception, 100% recyclable ou réemployable. Les collectivités, on l'a dit, ont la responsabilité d'avoir des bons systèmes de collecte dans la rue et chez vous. Et puis nous-mêmes, citoyens, après, on a la responsabilité de faire le bon geste.
Les industriels payent, vous nous l'avez dit plusieurs fois, mais est-ce qu'ils font de plus en plus d'efforts pour produire des emballages qui sont recyclables ?
Oui, alors en plus, nous, il se trouve qu'on a un système qui s'appelle les éco-modulations. Pour vous l'expliquer très simplement, c'est que quand vous êtes un industriel, vous payez pour un emballage. Plus l'emballage est recyclable, moins vous payez. Moins l'emballage est recyclable, plus vous payez. Et si vous faites un emballage en carton, vous allez payer moins que si vous faites un emballage en plastique. Et dans la catégorie plastique, si vous faites un emballage en PET, qui est très, très recyclable, vous allez payer moins que si vous faites un emballage en PVC, qui est très difficilement recyclable. Donc, il y a une incitation des entreprises à aller vers l'éco-conception et le 100% recyclabilité.
Alors Jean Ornain, vous connaissez évidemment Paprec, c'est un des grands noms du recyclage en France. Tiens, qui se cache derrière? Comment est né ce groupe? Eh bien, on va avoir la réponse tout de suite avec notre saga du jour. Sébastien Ricard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du développement durable de Paprec, né en 1994. Paprec est devenu en quelques années l'un des leaders du marché.
Absolument. Paprec, c'est avant tout l'histoire d'un homme et une belle aventure humaine. C'est un groupe qui a été fondé en 1994 par Jean-Luc Petit-Huguenin, qui était cadre dirigeant à la Générale des Eaux, qui est devenu Veolia, et qui avait une vision qui était qu'il fallait développer le recyclage et passer d'une gestion de déchets plus rationnelle, plus respectueuse de l'environnement, qui permettait véritablement de transformer, comme Jean-Renan le disait tout à l'heure, nos déchets en ressources. Et donc, en 1994, Jean-Luc Petit-Huguenin s'est lancé en reprenant une entreprise de recyclage de papier carton à La Courneuve, de 45 personnes, pour en faire aujourd'hui le leader français du recyclage, avec 10 000 personnes employées en France et 12 millions de tonnes de déchets traités chaque année.
Oui, ça a commencé avec 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à la création en 1994. Ce qui a fait la différence dès le démarrage, c'est parce que le groupe est né finalement récemment, c'est d'avoir eu cette vision de l'importance de la transition écologique. C'est ça vraiment la ligne fondatrice du côté de chez Paprec ?
La ligne fondatrice de Paprec, c'est vraiment ça. C'est vraiment le recyclage, la valorisation matière. Il faut savoir que, pour vous donner un exemple, il y a 25 ans à la création de Paprec, il n'y avait aucune tour de la Défense qui était dans un programme de recyclage. Aujourd'hui, il n'y a pas une tour de la Défense qui n'est pas dans un programme de recyclage. Et il y a vraiment un changement un changement des mentalités, un changement de la régulation aussi, qui va dans le bon sens, qui nous pousse tous ensemble à aller vers plus de recyclage. Ça reste une industrie très capitalistique, puisque le groupe a investi plus d'un milliard et demi d'euros dans ses usines en 25 ans. Mais j'ai envie de dire pour le bien de la planète.
Et donc c'est vraiment une entreprise familiale, puisque les trois fils de M. Petit-Huguenin travaillent dans l'entreprise. Le directeur général, c'est même Sébastien Petit-Huguenin. Comment ça se passe? Est-ce que vous les connaissez bien? Ils s'entendent bien? Ils sont passionnés par ce qu'a créé leur père?
Alors, ils s'entendent très bien, heureusement. Ils sont passionnés par ce qu'a créé leur père et puis plus généralement par le recyclage et la protection de l'environnement. C'est, si vous voulez, Paprec, la force, une des forces de Paprec, c'est son management. On a un management humain, un management de proximité. On a ça tient aussi au caractère de l'entreprise familiale. Mais on a un vrai management réactif de proximité, ce qui nous a permis la croissance qu'on a jusqu'à présent, mais ce qui nous a permis aussi plus ponctuellement, dans des périodes de crise, je pense face au Covid, une très forte résilience, une très forte adaptabilité, une très bonne réactivité pour continuer à répondre aux besoins de nos clients.
Et Jean c'est d'autant Ornain, plus important quand un groupe s'est construit à coup d'acquisition, puisque finalement le groupe a grossi uniquement parce que vous rachetez chaque année d'autres divisions, et c'est important pour d'avoir une famille derrière pour créer une unité de groupe.
Alors c'est pas vrai en fait, le groupe s'est construit aux deux tiers par sa croissance interne. Donc en développant les activités qu'on avait, évidemment, on a un tiers de notre croissance historique qui est liée pour le coup à de la croissance externe. Et c'est vrai que la force du groupe, c'est ce management de proximité, ce management humain
Et vous parliez justement donc effectivement de ce management, et pas près que ça a aussi été la première entreprise privée à se doter d'une charte de la laïcité, de la diversité, votée à l'unanimité par les salariés du groupe. C'est tout un état d'esprit qu'il y a derrière ?
C'est tout un état d'esprit, exactement. Si vous parlez de cette charte de la laïcité et de la diversité, la question qu'on a posée à nos salariés, c'était s'ils étaient d'accord pour qu'elle soit intégrée au règlement intérieur. C'est ce qui a été le cas. C'était beaucoup de pédagogie, mais c'était au départ une demande de nos salariés, qui nous demandaient justement et qui nous disaient que ce qui était bien chez Paprec, c'est que on était là pour bosser et on était jugé sur le travail accompli.
Jean, on l'a compris, hein, Paprec, c'est un des très grands noms du recyclage en France. Il y a deux autres grands noms qui sont en train de se battre, hein, dénommé Veolia et dénommé Suez. Vous les connaissez obligatoirement beaucoup. Veolia veut manger Suez pour créer un leader mondial. Vous, de votre point de vue d'expert quand même, là, vous ne pouvez pas me dire que vous ne les connaissez pas. Il faut qu'ils se marient, ce serait une bonne chose.
Bah déjà, je vous confirme que Paprec est une très belle entreprise, voilà, avec lesquelles on a des programmes de R&D, de modernisation des centres de tri. Enfin, c'est une entreprise magnifique. Après, sur cette question glissante là, de la fusion entre Veolia et Suez, oui, on les connaît bien parce qu'on travaille avec eux. Je pense que je ne vais pas me livrer à un avis tranché. Je vous dirais simplement, ça ouvre des questions. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai compris, c'est que finalement, dans le monde, à l'international, ce serait utile d'avoir un seul champion. Après, sur le territoire français, est-ce que finalement, avoir ces deux compétiteurs ne serait pas...
Il y aurait deux champions, puisqu'ils vendraient la division France de Suez à un fonds d'investissement qui s'appelle Meridiam, qui est spécialisé dans les infrastructures. Vous avez peur que du coup, il y ait moins de concurrence pour le bien-être de notre gestion de tri?
Je n'ai pas peur, mais c'est vrai que la concurrence, d'une façon générale, stimule.
Merci Sébastien Ricard, directeur du développement durable de Paprec. Jean Ornain, vous êtes le directeur général de Citeo, on le rappelle, un des géants du recyclage en France, et vous êtes avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et il est 13h41 pour le moment sur Europe 1.
Allez, direction les trophées Europe 1, un projet, un pitch, un moment que vous attendez.
Bah oui, parce que c'est une des promesses de votre émission aujourd'hui. Tatapi, ce sont des tapis d'éveil éco-responsables et made in France.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
C'est parti pour les trophées Europe 1. Ils osent, ils se lancent. On les écoute chaque jour pitcher devant l'œil attentif et exigeant de notre patron du jour. Aujourd'hui, Jean Ornain, directeur général de Citeo, un des géants du recyclage.
Bonjour Jessica Guillot.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je peux donner votre âge ?
Oui.
Vous avez 40 ans, vous êtes basée à Bourg-en-Bresse, vous êtes la fondatrice de Tatapi. Alors Elisabeth, quand elle est là, elle adore qu'on épelle. T-A-T-A-2-P-Y. Et c'est quoi Tatapi ? Eh bien, c'est des tapis d'éveil éco-responsables et made in France. Vous connaissez la règle, hein, vous avez une minute pour convaincre nos millions d'auditeurs répartis partout en France, notre patron du jour, tout le monde. Allez, on est prêt ?
Oui.
Eh bien, on y va.
Tatapi, c'est la nouvelle marque dédiée au bien-être parents-enfants au sol. J'ai eu cette idée de créer des tapis à vivre à la naissance de mon fils parce qu'on voulait se mettre à son niveau au sol pour l'accompagner dans ses apprentissages. Et on a bien vu que c'était absolument pas confortable, que c'était souvent le bazar avec des plaids, des couvre-lits un peu partout et pas du tout déco. Donc étant designer professionnel, j'ai créé le premier tapis à vivre. Tapis XL, confortable, déco et durable. Pour toutes les activités au sol, que ce soit motricité libre, yoga, famille, lecture. Alors ce sont deux tailles de tapis, dont un XL, je l'ai dit, dessinés pour se superposer aussi entre eux, pour plus de confort et de déco. Fabrication française, évidemment. Et les matières sélectionnées sont sélectionnées pour leur qualité, bien sûr, et leur résistance aux aléas de la vie quotidienne.
Et bien voilà, vous voyez, vous terminez pile en même temps que la fin de la musique. Alors pour ceux qui se poseraient la question, chez vous, un format XL, c'est 2 mètres sur 1 m 40.
Voilà,
c'est ça la grande taille du tapis. Alors déjà, un grand merci Jessica pour ce pitch. Comme chaque jour, hein, on passe votre dossier au crible d'une experte. Notre experte, elle s'appelle Nathalie Carré de la CCI France. C'est son métier, hein. Elle accompagne les créateurs d'entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie. Vos forces, vos faiblesses, la réponse de Nathalie.
Trois points positifs pour l'entreprise Tatapi. Tout d'abord, une mission claire de l'entreprise. Réinventer les codes de la vie de famille et de la déco. Ça a l'avantage voilà, d'être clair et d'être précis. Et un premier produit très sympa, le tapis de sol, dont là aussi la promesse est clairement définie. Deuxième point positif, le 15 jours pour essayer. C'est assez rassurant parce que vous proposez de la vente en ligne et c'est donc pas possible d'essayer dans une boutique. Donc c'est bien de pouvoir se dire, bah, en fait, j'ai fait une erreur et je peux me faire rembourser. Et puis troisième point positif, la diversification des produits que vous entreprenez et que vous co-construisez avec votre communauté de clients. Et ça, c'est important puisque c'est eux qui vont acheter. Donc toutefois, un point amélioré, votre premier produit, le tapis, est fait pour, je vous cite, des moments de bien-être et de partage. C'est un espace de jeu, de déconnexion, de relaxation et de reconnexion avec les siens. Pour permettre ce moment de partage, il faut donc plutôt acheter le grand tapis qui fait 2 mètres sur 1,40 m pour que papa, maman, les enfants soient ensemble, mais qui coûte 399 euros. Donc le prix peut peut-être être rédhibitoire pour beaucoup de familles. Peut-être faut-il le positionner ce tapis sur l'univers de la petite enfance particulièrement, faire un focus sur l'univers de la petite enfance, parce que vous l'avez sûrement remarqué, surtout quand c'est son premier enfant, les parents sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour le bien-être de leurs enfants. Et puis surtout, il y a tous les cadeaux de famille. Donc si vous voulez que votre tapis soit accessible au plus grand nombre pour permettre au plus de familles possible justement de vivre ces moments de partage et de reconnexion, il y a peut-être une réflexion à avoir sur le positionnement prix notamment de votre tapis.
Alors Jessica, vous répondez quoi, Nathalie ?
En fait, j'ai voulu vraiment que le tapis soit made in France et de qualité très, non pas très haut de gamme, mais avec un certain niveau de qualité pour tout l'aspect durable dans le temps. Donc, ça peut être en effet pour certaines familles un investissement. Par contre, c'est un investissement sur du long terme, c'est-à-dire que ça ne va pas être un tapis traditionnel qui va durer peut-être les 6 premiers mois. À partir de la naissance, mais ça va être quelque chose qui va durer dans le temps.
Mais l'enfant grandit vite. Hein.
Grandit, mais ça peut durer jusqu'aux 8 ans de l'enfant. Et puis, encore une fois, c'est pour toutes les activités de la famille au sol.
Jean Ornain, directeur général de Citeo, là, vous mettez plus votre casquette d'entrepreneur. Vous en avez pensé quoi, vous ?
Déjà, moi, j'aime l'énergie des entrepreneurs et en l'occurrence entrepreneuses là, qui font sur ces nouveautés. Je pense deux choses. La première, c'est que la notion de bien-être par enfant est un bon positionnement. Après, j'aurais une question par rapport à ça, si je peux la
bien
poser.
Sûr,
c'est que
bien
finalement,
sûr, vous êtes là pour ça.
Au-delà du tapis, est-ce que finalement, il y a d'autres choses, ou d'autres usages, d'autres biens que vous allez chercher à commercialiser ? Parce que j'imagine que le tapis, à un moment donné, ça peut être limité.
Voilà. Tout à fait. Au niveau autres produits, en fait, ça va être tout un univers en fait, de confort au cœur du foyer. Donc, je suis en train de développer un nouveau produit qui va être un dossier pour être encore plus confortablement installé dans son intérieur avec son enfant. Donc voilà, c'est vraiment une relation de partage parent-enfant que je vais créer.
Que vous allez créer. Vous allez nous donner de vos nouvelles pour nous dire comment ça va à l'avenir et comment ça se poursuit pour vous. Un grand merci en tout cas, Jessica Guillot. Je rappelle donc que vous êtes la fondatrice de Tatapi, T-A-T-A-2-P-Y. On l'a compris, ce sont donc des tapis d'éveil éco-responsables et made in France.
Et si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr. Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Et Jean Ornain, directeur général de Citeo, vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, il est 13h, on reste ensemble Emmanuel.
On reste ensemble à 13h50 puisque dans un instant, demain au travail, on va parler intéressement.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission avec notre séquence Demain au travail. On est toujours avec notre patron du jour, Jean Ornain, le directeur général de Citeo.
Bonjour Thomas Hervé. Vous avez fondé Wopilo en 2017. C'est une marque d'oreillers ergonomiques et confortables, du linge de lit éco-conçu. Vous êtes distribué sur Internet, vous avez 10 salariés. Alors, si on y a eu envie de vous appeler aujourd'hui dans la France bouge, si vous avez mis en place en juillet dernier un intéressement afin d'associer tous les salariés aux résultats financiers de l'entreprise, pourquoi vous avez pris cette décision ?
Bonjour à tous, merci. Alors, ce qui s'est passé, c'est que fin 2019, le gouvernement a annoncé que les sociétés souhaitant verser la prime de pouvoir d'achat, la prime dite Macron en 2020, devaient avoir mis en place un plan d'intéressement dans l'année. Et c'est à ce moment-là qu'on a regardé ce dispositif. Et il est intéressant ce dispositif parce que c'est une prime collective sur objectif qui est versée donc à tous les employés. Et donc, comme vous l'avez dit, on l'a mis en place chez Opilo fin juin 2020.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez étudié pas mal de solutions pour associer financièrement les salariés à vos résultats. Et vous êtes allé sur l'intéressement. En quoi c'était la décision la plus intéressante ?
Alors en fait, c'est une solution qui est assez simple à mettre en place. On peut penser que c'est compliqué, mais aujourd'hui, il y a des partenaires comme la société, la startup Epstore qui nous a aidé à mettre ça en place. Et ça permet de donner un suivi des objectifs à toute l'équipe. Le fonctionnement de l'intéressement, c'est le suivant. On a défini deux paliers d'objectifs pour le deuxième semestre 2020 qu'on a communiqué à toute l'équipe. Et dans le cas d'Opilo, ces paliers sont liés au chiffre d'affaires. C'est une donnée simple et disponible immédiatement par tout le monde puisqu'on est un site commerce. Et si jamais on atteint le premier palier ou le second palier, c'est un montant d'intéressement qui sera versé à chacun des salariés. Et chez Opilo, ça va représenter entre 5 et un peu plus de 10% de la rémunération brute sur la période en fonction du palier atteint.
Et est-ce que vous avez senti un investissement différent de la part des salariés ?
Alors, différent, je n'irai pas jusque-là parce que...
Ils étaient déjà très motivés.
on est dit, c'est, tout le monde est hyper, hyper à fond dans ce projet, mais on trouvait que c'était une façon d'intéresser tout le monde collectivement à nos résultats, même si on est une jeune société. On pense que c'est important de pouvoir inclure toute la super équipe dès maintenant. Et puis, évidemment, il y a des avantages. Il y a des avantages pour les salariés. Parce qu'il y a une fiscalité qui est intéressante, elle est moins chargée qu'une prime classique. Et notamment si la prime est versée sur un plan d'épargne entreprise, il y a une exonération d'impôt sur le revenu. Et aussi, le dispositif, il est gagnant-gagnant parce que pour la société, il y a également un intéressement fiscal parce que 100% de la prime qui est versée est distribuée aux salariés, il n'y a pas de charge patronale dessus.
Ouais, donc on l'entend, c'est très intéressant. Jean Ornain, patron de Citeo, chez vous aussi, je crois que vous êtes 250, c'est ça, salariés ?
250.
Vous associez aussi les salariés à la performance de l'entreprise ?
Alors nous, en fait, il se trouve que nos activités sont à but non lucratif, donc on ne peut pas les associer à notre résultat. Et en fait, notre principal moteur d'énergie collective, c'est le sens de notre action. C'est
ce
une entreprise.
Capital aussi aujourd'hui.
Et le sens de ce qu'on fait, c'est essayer de réduire l'impact environnemental de notre consommation
quotidienne. Ce que cherchent les jeunes, d'ailleurs, vous ne devez pas avoir de mal à recruter.
Et on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent nous rejoindre parce qu'en fait, ils trouvent que c'est tout à fait dans le sens de ce qu'ils veulent.
Merci Thomas Hervé. Vous êtes donc fondateur de Opilo, une marque d'oreillers ergonomiques et confortables.
Eh bien oui, c'est déjà la fin de votre émission. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour cette première, Carole. Ça s'est bien passé ?
C'était un vrai plaisir d'être là.
Eh bien, c'était un plaisir partagé.
Mais évidemment, Elisabeth sera ravie de vous retrouver tous demain.
Et on va dire un grand merci à notre patron du jour, Jean Ornain, le directeur général de Citeo. Grâce à vous, on parlera mieux maintenant à notre poubelle.
On se retrouve donc, enfin vous, on retrouve Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayac demain à 13h pour une nouvelle France Bouge. Vous allez parler de quoi, Emmanuel ?
On va au défilé Etam demain, puisque Etam, un peu comme Victoria's Secret, fait un énorme défilé de lingerie demain à Paris. L'occasion de voir comment se porte ce secteur.
Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.